Ma vie a été complètement bouleversée ces derniers temps. J'ai vécu des trucs incroyables, vraiment percée sur percée, des réponses à mes prières, des trucs de fou. Donc je pourrais ne parler que de ça, mais peut-être une prochaine fois. En tout cas, voilà. Parce que ce matin, j'avais envie de parler d'un sujet avec lequel j'ai un peu lutté. Et je pense que beaucoup n'aiment pas ce sujet-là. J'ai envie de parler de l'obéissance. Comme maintenant je suis complètement parfaite sur cette question, ben je vais tout ça. Non, je rigole. C'est pas vrai du tout. D'ailleurs, ne vous en faites pas, vous partager un témoignage qui va vous prouver que je sais très bien désobéir. Donc vous allez vous sentir très très bien. Ne vous en faites pas. C'est vrai que c'est un sujet que en général on n'aime pas beaucoup et surtout en France, je pense, parce que déjà de par notre héritage, parce que les Français, on aime bien faire la révolution, tout ça. Aussi pour l'époque dans laquelle on vit, parce qu'on est dans une époque où on enseigne à vraiment à être indépendant, à être fearless, sans peur, voilà, à faire tout par soi-même. Et donc l'obéissance, ça ne nous parle pas trop. Et puis en fait, c'est quelque chose qui est la rébellion, c'est quelque chose qui existe dès l'enfance. Donc si vous avez des enfants, vous savez que les petits-enfants, souvent, un des premiers mots qu'ils apprennent à dire, c'est le mot non. Quand ils savent pas encore former des phrases complètes, et ben ils savent très bien dire non, donc ils savent très bien exprimer leur mécontentement et déjà un petit peu cette rébellion-là. Mais je pense que ça s'arrange pas vraiment en devenant adulte, parce qu'on a un peu tendance à devenir presque orgueilleux, un peu à dire ben moi maintenant j'ai compris, je sais faire. Et l'obéissance, c'est pas trop quelque chose qu'on aime en général. Peut-être que c'est que moi. Donc, mais vous en faites pas, vous allez voir que c'est pas vraiment le cœur de mon message. Mais on va commencer par là, et vous allez comprendre. D'ailleurs, merci beaucoup Sandrine, je sais pas où t'es, mais merci beaucoup pour la louange, je pense que ça va parfaitement avec ce que je vais partager. Mais d'abord, avant de commencer, je voudrais vous poser une question, elle est très très simple. Est-ce que vous aimez Jésus? Top, moi aussi. Jean 14, 15, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Voilà, bon dimanche. Je rigole. Ce verset, si vous m'aimez, gardez mes commandements, ou si vous m'aimez, obéissez-moi, ça ne veut pas dire qu'il faut prouver notre amour en lui obéissant, mais ça veut plutôt dire que le fruit de notre amour, c'est l'obéissance. Je vais vous donner un exemple dans la Bible, dans Genèse. Le contexte, c'est que Dieu, il vient de demander à Adam de quitter son pays, de quitter sa famille et de partir. Et il lui dit pas pour aller où. Il lui dit juste pars et puis je vais te dire où tu vas aller. Et il lui fait aussi une promesse qu'il va faire de lui une très nombreuse descendance. À l'époque, eh bien. Abraham, sa femme était stérile, sa femme était vieille, donc il n'avait même pas encore d'enfant. Donc c'est une promesse qui peut paraître un peu folle. Et puis quitter sa famille, quitter le pays de son père et tout, eh ben, c'est quitter une sécurité. Et puis pour aller, ben, il ne sait pas encore où, ça peut paraître un peu fou. Et pourtant, Genèse 12, verset 4, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Donc il entend Dieu, il entend sa parole, et puis il agit suite à la parole. Ça, c'est de l'obéissance. Et c'est ce que Dieu attend de nous, ce qu'il espère de nous. Il y a ce verset qui est très connu qui dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc plus que tous les actes extérieurs, Dieu, il veut un cœur qui suit sa volonté. Alors maintenant, je vais vous partager mon super témoignage de désobéissance. Avec mon mari, on a habité en Angleterre pendant longtemps. Et à ce moment-là de notre vie, ça faisait presque 8 ans qu'on était en Angleterre. On avait 3 enfants et puis Dieu nous a parlé de manière très très claire. Il nous a demandé de venir déménager à Montélimar. Et on avait tellement entendu Dieu nous parler, enfin pour nous c'était évident que ben, on a fait un peu comme Abraham, on est venu à Montélimar. Je crois que 3 mois après on était sur Montélimar, donc on a entendu, on a agi, on s'est installé. Donc tout commence bien, cette histoire commence bien, mais elle finit pas terrible. C'est que on s'est installé donc à Montélimar. On est resté, je pense, 2 ans et en fait, ça a été 2 années très difficiles pour nous. Ça a été vraiment dur sur plein de niveaux. On avait déjà construit toute notre vie d'adulte en Angleterre. Puis l'Angleterre était un pays auquel on était très attachés, qu'on aimait beaucoup et tout. Et puis la France, malgré le fait qu'on avait la conviction que Dieu nous avait parlé, ça nous a semblé très dur. On n'était vraiment pas préparés à ça. Et au bout de 2 ans, on s'est dit, mais tu sais quoi, ça ne vaut pas vraiment le coup en fait. Et puis peut-être que finalement, on n'avait pas vraiment entendu Dieu. Et puis on était quand même pas mal en Angleterre. C'était plus confortable en Angleterre. On va repartir. Et on est reparti en Angleterre. À ce moment-là, on avait 4 enfants, j'étais enceinte du 5e. Et on est retourné en Angleterre. Notez bien que Dieu ne nous a pas empêchés de retourner en Angleterre. Pourtant, Dieu nous avait parlé, Dieu nous avait bien dit de venir à Montélimar, mais il nous a permis de lui désobéir. Il ne s'est pas fâché contre nous, il nous a laissé faire, parce que Dieu nous laisse le libre arbitre. Donc on s'est installé en Angleterre et... On avait plein de projets en tête, on avait plein d'idées, on avait plein de choses qu'on voulait faire, sauf que toutes les portes auxquelles on a frappé se sont fermées. Il n'y a rien de ce qu'on avait imaginé qui s'est accompli, et puis même pire, par rapport à avant, où vraiment on avait quand même une vie qui était agréable, et ben là, ça n'avait rien à voir, quoi. C'était horrible en fait, c'était encore pire que les années où on était en France, où pour nous c'était difficile. En fait, on avait désobéi à Dieu, et du coup, les portes se fermaient devant nous, quoi. C'est pas que Dieu nous a abandonnés, pas du tout, mais c'est que nous, on n'était plus dans la volonté de Dieu, et donc ça marchait pas, quoi. On faisait par nos propres forces, et du coup, il n'y avait rien qui avançait. Alors, comme vous le constatez, on est de retour à Montélimar, donc, donc Dieu a quand même fini par nous rappeler très gentiment, de manière très bienveillante, nous confirmer sa parole, qu'il nous avait demandé de venir à Montélimar. Il nous a permis de faire de nous repentir, de faire un changement de situation et de revenir. Mais ça a quand même eu des conséquences, 2 ans de notre vie, des conséquences sur nous, mais aussi sur nos enfants. Parce que quand on est marié ou quand on est parent, notre désobéissance a aussi des conséquences sur notre famille. Et puis des conséquences financières, enfin beaucoup de choses quand même, ça implique beaucoup de choses. Et je vous partage ça parce que, même si bien sûr il n'y a pas de condamnation en Jésus, même si on peut toujours faire des retours en arrière et tout, c'est important de se rendre compte que la désobéissance a des conséquences. C'est du sérieux. Il y a plein d'exemples dans la Bible, commencé par Adam et Ève, bien sûr, mais il y en a plein dans le Nouveau Testament, Ananias et sa femme qui sont tombés raides morts. Enfin bref, il y en a énormément, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas le cœur du message. Mais je pense que quand même, c'est important de se rendre compte que obéir, c'est important et que désobéir, c'est sérieux. D'ailleurs, le verset que je vous ai cité tout à l'heure, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, on le connaît très bien, mais je ne sais pas si on connaît aussi bien le verset qui suit. Donc c'est dans 1 Samuel 15, verset 23. « L'insoumission est aussi coupable que la divination, et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. » Déjà, la désobéissance, c'est clairement appelé un péché. Et en fait, ça veut dire, si tu n'obéis pas à Dieu, ça veut dire que tu obéis à quelqu'un d'autre et tu es soumis à ce à quoi tu obéis. Donc si par exemple tu obéis au désir, à tes propres désirs, tu deviens esclave de ta chair. Et il vaut mieux obéir au Seigneur. Le contexte de ce verset dans 1 Samuel, c'est l'histoire du roi Saul, où Dieu lui a demandé de détruire les Amalécites. Et en fait, le roi Saul, il a presque obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu à 99,9%. Il a tué peut-être, je ne sais pas combien, mais tous les Amalécites, sauf un. Il a tué tous les animaux, comme Dieu lui avait demandé de faire, sauf un, parce qu'il s'était dit, on va permettre au peuple d'offrir un sacrifice pour Dieu. Et Samuel, le prophète, quand il est venu le voir, donc quand même le roi Saul, enfin je veux dire, il a bien fait son travail, quoi. Samuel lui a dit, tu t'es rebellé contre Dieu. C'est un peu dur quand même, hein. Et ça veut dire que obéir partiellement, c'est pas de l'obéissance. Et c'est vrai que moi, par exemple, si je demande à mon fils de vider de la vaisselle et qu'il vide tout, mais qu'il me laisse les bols sales, je vais lui dire, écoute, mon gars, c'est pas fait, recommence. C'est ce que tu n'as pas fait, ce que je t'ai demandé, en fait. Et l'obéissance partielle, ça révèle une part de contrôle dans notre vie. Et on a quand même un Dieu qu'on appelle Seigneur. Et puis, moi, j'aime bien les romans historiques, les séries historiques et tout. Et vous savez, les nobles qu'on appelait seigneurs à l'époque, parfois, on les voit, ils disent des choses, ils donnent des ordres, puis parfois, ils ont tort. Mais même s'ils ont tort, quand ils disent quelque chose, on ne peut pas remettre leurs paroles en question, on obéit. D'accord ? C'est ce qu'on voit dans les films, j'imagine que ça se passait comme ça. Je ne suis pas une très très bonne historienne, mais en tout cas, le Seigneur, quand il parle, on obéit. Et là, on parle de personnes humaines, d'accord, qui peuvent faire des erreurs, qui parfois se trompent, c'est déjà arrivé. Mais Dieu ne se trompe jamais. Et Dieu, on l'appelle Seigneur. Donc, à combien plus forte raison, nous, on devrait obéir à notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, et lui obéir complètement. J'aime bien cette phrase de Balaam qui dit « Je ne peux absolument pas désobéir à l'ordre du Seigneur. » Et pourtant, il a été... Enfin, je ne sais pas s'il a été tenté, mais en tout cas, on lui a demandé plusieurs fois d'aller contre ce que Dieu lui avait dit. Et plusieurs fois, il a dit non, je ne peux pas faire l'inverse de ce que Dieu me dit. Donc, bien sûr, on ne parle pas de perfection instantanée, mais d'un cœur qui est entièrement soumis. Et j'en profite pour dire que si on a envie d'obéir à Dieu, mais qu'on n'est pas sûr... et qu'on le fait pas parce qu'on a peur de se tromper, et ben c'est pas comment dire, si on agit avec la conviction que c'est Dieu qui a parlé, et si ce qu'on fait c'est en accord avec les valeurs du royaume, et ben c'est pas grave parce que Dieu regarde au cœur, d'accord. Donc c'est pas grave de se tromper si on a vraiment agi parce que on a vraiment cru que c'était Dieu qui parlait. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, c'est pas quelqu'un qui va venir juger de manière sévère si on a agi parce qu'on voulait lui faire plaisir, parce qu'on voulait lui obéir, d'accord ? Il regarde au cœur. Mais c'est quand même important, du coup, de connaître les valeurs du royaume, de chercher d'abord le royaume de Dieu pour s'assurer que ce qu'on fait, c'est aligné avec sa volonté, quoi. Alors, on obéit complètement, on obéit même quand ça n'a pas de sens, comme il l'a fait Abraham. Et on obéit aussi même quand c'est difficile. Ça a été notre problème avec Mathias, quand on est venu en France et que Dieu nous avait demandé de venir ici et que ça a été très difficile, et ben on a fini par se dire ça vaut pas le coup en fait. Ce qui était un peu arrogant de notre part parce qu'en fait on obéit pas pour obtenir quelque chose, on obéit parce que Dieu a parlé et puis on obéit et puis c'est tout. Nous c'était difficile, on s'est dit ah non ça vaut pas le coup, mais c'est pas ça qu'il faut faire, d'accord ? Ne suivez pas notre exemple. Je vous donne un vrai bon exemple que vous pouvez suivre, c'est l'exemple de Joseph. Joseph à qui Dieu avait parlé et Dieu lui avait donné des promesses, il lui avait dit qu'il serait au-dessus de ses frères, qu'il allait avoir plein de choses, et en fait Joseph le pauvre, vraiment il a eu une vie horrible quoi. Il a été vendu par ses frères, donc il a été trahi par ses frères, il a été au service du pharaon, il a été accusé injustement, il a été mis en prison, après en prison on l'a oublié, enfin bref, vraiment des années nulles pour Joseph. Pourtant, Dieu lui avait parlé et il est resté droit et il a quand même continué à faire tout ce qui était juste, même quand personne n'était là pour vérifier qu'il faisait tout bien. Il a continué à obéir à Dieu, à faire tout ce qui était juste selon Dieu. Et pourtant, malgré le silence apparent de Dieu et malgré toutes ces années où il n'a rien obtenu, lui. Alors, à la fin de l'histoire, il a été élevé, tout ça, il a vu l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais je ne sais pas combien d'années ça a duré, mais pétard, ça a duré super longtemps. Et je pense que nous, dans sa situation, on aurait quand même... moi, personnellement, au bout d'un moment, je me serais dit, c'est bon, là. Je sais pas. Bref, non, il a continué. Donc, voilà, suivez l'exemple de Joseph, pas le mien. On obéit même quand c'est difficile. Dans la vie, concrètement, des exemples de choses difficiles, ça peut être de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, ou bien de demander pardon en premier, pour notre part de responsabilité, même si l'autre personne ne l'a pas fait, même si elle ne le fait jamais d'ailleurs, de servir là où on n'a pas super envie, de renoncer à avoir le dernier mot, de quitter une sécurité quand on ne sait pas où on va, comme l'a fait Abraham, pour aller vers l'inconnu, un truc très difficile aussi, d'attendre quand Dieu nous demande d'attendre, quand on a très envie d'agir. Parce que le problème de ça, c'est que même si... c'est ce que tu dois faire. Si ce n'est pas le bon moment et que tu fais avec tes propres forces, ça ne va rien faire et il ne va rien se passer. Ça peut être donné quand on a peur de manquer, rester intègre quand personne ne regarde, comme Joseph, ou renoncer à satisfaire ses propres désirs s'ils ne sont pas alignés à la volonté de Dieu. Il y a plein d'autres exemples, mais bon, il y a plein de choses difficiles que Dieu peut nous demander de faire. Et après, c'est nous qui avons le libre arbitre de lui obéir ou non. Mais le plus important, donc oui, le fruit de l'amour, c'est l'obéissance. Mais on n'obéit pas à Dieu parce qu'on a peur des conséquences de la désobéissance, ni pour obtenir quelque chose. Alors, qu'est-ce qui nous motive à obéir à Dieu? Eh bien, c'est la sainte crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Parce que ce n'est pas possible d'être proche de quelqu'un dont on a peur. Et Dieu, il désire ardemment être proche de nous. Encore plus que nous, on désire être proche de lui. D'accord? Donc la crainte de Dieu, ce n'est pas ça. La crainte de Dieu, c'est un respect profond, une admiration pour la sainteté de Dieu. Dans Proverbes, on apprend que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il y a une autre version qui dit que la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. J'aime bien cette version-là parce que ça me parle pour moi, de se tenir en révérence devant Dieu qui est saint. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un témoignage. C'est le témoignage de Jim Bakker. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. C'était un ancien évangéliste dans les années 80. Il a conduit plein de personnes à Christ. Il était vraiment passionné. Il était en feu, quoi, pour Dieu. Et puis, il s'est retrouvé en prison. Je ne sais plus exactement pourquoi, il me semble que c'est une histoire de fraude, je ne sais plus, mais en tout cas, pour des faits avérés et des faits graves, il s'est retrouvé en prison. Et au bout de 3 ans en prison, eh ben, sa vie a totalement changé. Il s'est repenti et puis voilà. Et il a demandé à voir John Bevere, qui est allé le voir et qui lui a dit, mais écoute, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Pendant des années, tu as été... incroyable, tu aimais tellement Dieu que ça émanait de toi, tu as conduit plein de personnes à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment est-ce que tu as arrêté d'aimer Dieu? Et Jim Bakker, il a répondu, mais je n'ai jamais cessé d'aimer Dieu, mais je ne le craignais pas. Et cet homme en prison, donc sa vie a complètement changé, on lui a même proposé de tenir le rôle de pasteur dans l'église, dans la prison. Mais il a refusé parce qu'il sentait que Dieu lui disait que ce n'était pas sa place, parce qu'il avait eu tendance dans le passé à manipuler et il ne voulait pas se tenir dans une position où il pourrait être tenté de le refaire. Donc il a continué à obéir à Dieu et sa vie a changé. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit qu'on se détourne du mal par la crainte de l'Éternel. Le fruit de l'amour, c'est l'obéissance. Et l'obéissance, c'est une évidence quand on craint Dieu. La crainte de Dieu, c'est quand on se rend compte qu'on est face à un Dieu qui est tellement saint, tellement puissant, qu'on n'a pas envie de bouger le moindre petit doigt devant sa présence. On n'a pas envie de faire autrement que sa volonté. Et moi, je me souviens quand j'ai rencontré Jésus, donc je l'ai rencontré par une vision. Je l'ai vu se tenir devant moi. Personne ne m'avait parlé de Dieu. D'accord ? Personne. Je viens d'une famille athée. Et je connaissais personne qui était chrétien. Il y avait une fille dans mon lycée qui avait tenté de me parler un petit peu de Dieu, mais bon, ça marchait pas pour diverses raisons. Je pense qu'il y avait vraiment un combat et tout. J'avais des maux de tête et tout. Je détestais qu'elle m'en parle, donc elle n'avait jamais réussi à m'en parler. Je ne connaissais même pas les circonstances de la mort de Jésus. Enfin, rien. Je connaissais rien, d'accord. Et pourtant, j'ai eu une vision où j'ai vu Jésus s'approcher de moi. Et j'ai ressenti sa présence. Et en fait, j'ai eu une révélation à ce moment-là. Vraiment, j'ai compris que devant la sainteté de Dieu, le péché n'avait pas sa place. Et qu'en fait, il y avait quelque chose de trop, quoi. J'ai compris vraiment que tout ce que je faisais dans ma vie qui était mauvais, ça ne pouvait pas subsister en la présence de Jésus. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez déjà connu ce genre de rencontres, des rencontres vraiment puissantes où, en fait, on ne peut rien faire d'autre que pleurer, que juste se tenir là, pleurer sous le poids de sa gloire, d'être en admiration devant lui, quoi. Comme on l'a chanté tout à l'heure, on adore un Dieu qui est saint, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu parfait, un Dieu créateur, un Dieu qui est à la fois unique et trinitaire. Ça dépasse notre compréhension, en fait. C'est même pas quelque chose que notre intelligence peut comprendre, parce que c'est beaucoup plus que notre intelligence. C'est un Dieu qui est adoré 24 heures sur 24 par les anges. Jour et nuit, il est adoré. En ce moment, il est adoré. En ce moment, il y a des anges qui sont en train de chanter « Saint est l'Éternel, Saint, Saint, Saint est Dieu ». Et nous, parfois, on oublie un peu ça. On se permet de vivre notre vie sans avoir vraiment conscience que Dieu est vraiment un Dieu saint, et que Dieu est là, et que Dieu existe, que Dieu est tout le temps présent, tout le temps saint. On vit notre petite vie, et puis quand on a un peu de temps, on se dit, ah ben, je vais lire un chapitre de la Bible, je vais faire une petite prière, et puis sinon, voilà, on continue la vie comme ça. Mais non, mais en fait, mais ça, c'est pas, comment dire, c'est pas digne d'un Dieu, c'est pas digne de notre Dieu qu'on adore tous, un Dieu qui est digne de louange. Ça suffit pas. Dieu, il veut avoir la première place dans notre vie. Et avoir la première place, ça veut pas dire on se réveille le matin, on prie tout de suite pendant 5 minutes et puis après on vit notre petite vie. Ça veut pas dire ça. Que Dieu ait la première place dans notre vie, ça veut dire prier sans cesse. Ça veut dire être constamment connecté à lui, dans toutes les petites choses de notre vie, tout le temps. Tout le temps. Si on réalise vraiment qui est Dieu, on n'a pas du tout envie de faire autrement que d'être connecté à lui tout le temps. Il est saint. Moi, vraiment, ma prière pour moi, c'est que jamais je ne m'éloigne de lui. Parce que lui, il est toujours proche de nous. Lui, c'est le désir de son cœur, c'est d'être proche de nous. Donc, ce n'est pas lui qui s'éloigne de nous, c'est nous qui nous éloignons de lui. Ah, moi, jamais je veux m'éloigner de ce Dieu qui est tout-puissant, qui est saint, qui est parfait. Jamais, jamais, jamais. Quand on est en présence de Dieu, c'est là qu'on comprend que lui obéir, ce n'est pas une contrainte, c'est un honneur. C'est un honneur d'obéir à ce Dieu. Et en sa présence, on désire forcément lui obéir. Okay, on désire forcément lui obéir de tout notre cœur. Parce que, est-ce qu'on se rend compte quand même, Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, Dieu, il est amour. Dieu, il est le chemin, la vérité, la vie. Tout a été créé pour lui, par lui. Il est le Père des Lumières. Il est un juste juge, il habite dans les lieux célestes. Il est saint, il est souverain, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Ça veut dire qu'il est partout, il sait tout, il a tout pouvoir. Il est bon, il est juste, il est patient, il est fidèle. Et tout ce que je vous dis là, c'est quelques-uns des attributs de Dieu, mais en vrai, je ne sais pas vraiment qui est Dieu, je ne sais pas complètement qui est Dieu, parce que tout ce qu'on connaît de Dieu, ce sont des révélations partielles. Mais rien que ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de l'adorer, de se tenir dans sa présence et de juste adorer ce Dieu qui est si parfait. Il est glorieux. C'est écrit partout, partout dans la Bible. Le ciel raconte sa gloire, les eaux révèlent sa majesté. Sa majesté remplit la terre. Si même la nature loue son nom, si même la nature lui obéit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Dieu, il cherche des cœurs entièrement disponibles. Vous le savez, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et face à la sainteté de Dieu, l'obéissance, c'est un acte d'adoration. Je suis tellement convaincue que j'adore un Dieu saint que je ne veux absolument pas m'éloigner de sa volonté. Le fruit de notre amour, c'est l'obéissance. On a compris que, voilà, désobéir a des conséquences. Anna. On obéit à Dieu parce qu'on le craint, parce qu'on est conscient de qui il est. Pas pour obtenir quelque chose, pas parce qu'on a peur des conséquences, mais parce que juste on a envie d'être connecté à lui tout le temps. On a envie de connaître son cœur, de suivre sa volonté. Le reste n'a pas d'importance, en fait, quand on est en présence de Dieu comme ça. On obéit complètement quand c'est difficile, quand ça n'a pas de sens. Vraiment, la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, je vais la répéter parce que j'espère que vous retiendrez ça. C'est que face à la sainteté de Dieu, l'obéissance devient un acte d'adoration. J'ai plein d'autres exemples. Il y a plein d'autres exemples que je pourrais vous partager dans la Bible, mais j'ai pas envie, parce que je sens pas que là c'est le moment de partager tous ces exemples-là. Et en fait, là je redis tout ça et je me rends compte à quel point le Dieu que je sers est un Dieu saint, et j'ai juste envie de me tenir devant lui. Donc je sais pas ce que vous en pensez, peut-être qu'on peut juste adorer Dieu ensemble. Et vous savez, adorer Dieu, c'est pas que chanter, c'est aussi juste se tenir devant sa présence, se rendre compte de sa gloire, de qui il est. En fait, j'ai rien d'autre à dire que Dieu est incroyable, Dieu est parfait, Dieu nous parle, et que le fruit de notre amour, c'est l'obéissance. On aime Dieu tellement, tellement, qu'on ne veut que lui obéir. Quand je vous propose qu'on passe tout de suite à juste nous tenir devant Dieu, à contempler la sainteté de Dieu, que chacun se tienne devant Dieu, contemple sa sainteté. Et si tu as envie, tu peux te poser ces questions. Dans quel domaine Dieu me demande d'obéir en ce moment? Et est-ce que je résiste encore quelque part? Le Saint-Esprit révèle ces choses à ton cœur. Même les anges ne s'arrêtent jamais, jamais d'adorer Dieu.